Ce podcast vous est présenté par BitStack, la première application en France qui vous permet d'épargner en Bitcoin sans aucun effort. Pour en savoir plus et pour découvrir tous nos articles sur Bitcoin, rendez-vous sur bitstack-app.com. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de BitStack présenté par Loïc Morel, dans lequel nous allons découvrir tout ce qu'il faut savoir sur la consolidation de pièces Bitcoin. Si vous achetez du Bitcoin en DCA pour le sortir sur votre propre portefeuille en self-custody, alors vous êtes peut-être en possession d'une multitude de petits outils EXO. Ces morceaux de Bitcoin peuvent rapidement devenir embêtants lors des périodes de congestion du réseau et de hausse des frais de transaction. La consolidation du TXO permet de résoudre ce problème. Dans cet article, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la consolidation de pièces Bitcoin. Comment se structure une transaction sur Bitcoin ? Pour comprendre en quoi consiste la consolidation de pièces sur Bitcoin, il est essentiel de connaître la structure d'une transaction ainsi que les mécanismes liés aux frais de transaction. Les unités de compte Bitcoin sont représentées sur le protocole sous la forme du TXO. Ce que l'on appelle en anglais « unspent transaction output ». Ce sont essentiellement des fragments de Bitcoin, plus ou moins gros, qui sont en attente d'être dépensés. Lorsque vous souhaitez réaliser un paiement, vous allez consommer certains de vos outils EXO en entrée, ce que l'on appelle des « inputs » en anglais, et cela vous permettra de produire de nouveaux outils EXO en sortie, ce que l'on appelle des « outputs », afin de satisfaire votre paiement. Par exemple, imaginons que vous possédez un morceau, c'est-à-dire un outil EXO, de 200 000 sats et que vous souhaitez acheter une baguette qui coûte 6 000 sats. Vous allez construire une transaction Bitcoin avec en entrée votre outil EXO de 200 000 sats. En sortie, vous allez créer un premier outil EXO de 6 000 sats qui ira vers l'adresse du boulanger. Vous allez également créer une seconde sortie afin de récupérer votre monnaie. Si l'on néglige les frais, elle sera de 194 000 sats et elle ira vers une autre adresse qui vous appartient. Mais si vous souhaitez réaliser un plus gros paiement, vous allez peut-être devoir agréger plusieurs entrées dans votre transaction. Il faut que le montant total des entrées soit au moins égal au montant du paiement que vous désirez faire en sortie. Pour résumer, le rôle d'une transaction Bitcoin est de consommer des entrées et créer en contrepartie des sorties. Les entrées représentent les Bitcoins utilisés pour faire le paiement et les sorties représentent les destinations de votre paiement. Comment fonctionnent les frais de transaction sur Bitcoin ? L'espace dans la blockchain Bitcoin est une ressource rare. Chaque bloc est strictement limité en poids et l'on en produit un seul environ toutes les 10 minutes. Pourtant, il y a souvent de nombreuses transactions en attente de confirmation dans les mêmes pools. Le rôle des mineurs est entre autres de venir piocher ces transactions et de les inclure dans un bloc valide. Mais puisque l'espace dans chaque bloc est limité, ils sont obligés de faire un choix parmi les transactions en attente. Ce choix est évidemment guidé par des intérêts économiques. Le minage est une activité industrielle. Chaque mineur cherche donc à maximiser ses profits afin d'éviter la faillite. Lorsqu'ils sont confrontés au choix des transactions à intégrer dans leur bloc, les mineurs opteront logiquement en priorité pour celles qui offrent les frais les plus élevés. Mais attention, toutes les transactions ne font pas le même poids sur Bitcoin. Si vous réalisez une simple transaction de paiement avec une entrée et deux sorties, votre transaction sera plus légère que si vous utilisez 4 entrées et 6 sorties. Puisque l'espace dans les blocs est limité, les mineurs doivent également prendre en compte le poids de votre transaction dans leur calcul des frais. C'est pour cette raison que les frais d'une transaction Bitcoin ne sont pas considérés de manière absolue, mais bien de manière relative au poids de la transaction. Autrement dit, les mineurs calculent le taux de frais d'une transaction par rapport à son poids pour déterminer un ordre de priorité. Ce taux est nommé Satoshi par octet virtuel ou Sats par V-byte. Prenons deux exemples pour bien comprendre ce concept. Imaginons une première transaction Segwit avec une seule entrée et une sortie. En termes d'octets virtuels, c'est-à-dire en termes de poids, disons que la transaction mesure 141 V-bytes. Si elle prévoit d'allouer 1994 sats de frais réels, alors son taux de frais sera d'environ 14 sats par V-byte. Le calcul est le suivant, on va faire 1994, c'est-à-dire les frais réels qui sont payés, divisé par 141, c'est-à-dire le poids de la transaction, et donc ici c'est égal à 14, on a donc un taux de frais de 14 sats par V-byte. Imaginons une seconde transaction Segwit, cette fois-ci avec deux entrées et deux sorties. En termes d'octets virtuels, disons que la transaction mesure 220 V-bytes. Si elle prévoit d'allouer 2640 sats de frais réels, alors son taux de frais sera de 12 sats par V-byte. Le calcul est 2640 divisé par 220 est égal 12, c'est-à-dire le nombre de frais réels, 2640, divisé par le poids de la transaction, 220, est égal à 12, donc 12 sats par VByte. Si l'on compare ces deux transactions, on peut voir que la seconde prévoit d'allouer 646 sats de frais de transaction en plus. Pourtant, si le mineur doit choisir entre ces deux transactions, il préférera toujours prendre la première en priorité. En effet, une fois les frais ramenés au poids que prendra la transaction dans le bloc du mineur, la première alloue 14 sats par VByte, alors que la seconde alloue seulement 12 sats par VByte. Il sera donc plus rentable pour le mineur d'inclure la première transaction, car l'espace dans chaque bloc est strictement limité. Le marché de frais sur Bitcoin se comporte donc comme un système d'enchères. Les transactions qui proposent au mineur le plus de Satoshi par rapport à leur poids, c'est-à-dire sats par VByte, sont incluses en priorité dans les prochains blocs. La consolidation du TXO, qu'est-ce que c'est ? Durant les périodes de congestion, lorsqu'un grand nombre de transactions sont simultanément diffusées sur le réseau Bitcoin, les frais s'envolent. Le mécanisme d'enchères incite les utilisateurs à proposer des frais toujours plus élevés, dans l'espoir de passer en priorité. Heureusement, pour le moment, ces périodes de congestion ne sont que temporaires. Parfois, les frais sont très élevés sur Bitcoin, et parfois, ils sont très bas. Il pourrait donc être intéressant de profiter des périodes de frais bas pour optimiser la gestion de nos UTXO et ainsi anticiper les périodes avec des frais élevés. C'est justement l'objectif de la consolidation d'UTXO. Comme évoqué dans la partie précédente, le taux de frais associé à une transaction dépend de son poids. Or, ce dernier varie en fonction du nombre d'entrées et de sorties impliquées dans la dite transaction. On peut donc optimiser ce taux de frais en utilisant le moins d'entrées possible dans chacune de nos transactions. Cependant, pour être capable de réduire le nombre d'entrées, il faut pouvoir disposer d'UTXO suffisamment grand pour satisfaire les sorties. Par exemple, si je veux payer ma baguette qui coûte 6000 sats mais que je ne dispose que de petits UTXO de 2000 sats chacun, alors je vais être obligé de mettre plusieurs entrées dans ma transaction. Je vais donc devoir payer plus de frais de transaction pour acheter ma baguette. En revanche, si je dispose d'un UTXO unique de 15 000 sats, alors je vais pouvoir payer ma baguette avec une seule entrée dans ma transaction et ainsi économiser des frais grâce à la réduction du poids. La consolidation vise à profiter des périodes de frais bas sur Bitcoin pour fusionner plusieurs petits UTXO en un seul plus gros. De cette manière, on peut prévoir les dépenses obligatoires en période de hausse de frais et ainsi économiser sur nos frais de transaction futurs. Concrètement, une consolidation consiste à se faire une transaction à soi-même. On va réunir tous nos petits UTXO que l'on souhaite fusionner et on va les mettre en entrée de notre transaction de consolidation. En sortie, on va créer un seul gros UTXO, en termes de montant évidemment, qui ira vers une seule adresse de réception nous appartenant. C'est donc un auto-transfert. Pour maximiser l'intérêt de cette pratique, on préfère diffuser des transactions de consolidation lorsque l'on estime que les frais sur Bitcoin sont très bas. Au-delà de l'économie pouvant être réalisée sur les frais de transaction, la consolidation permet également de prévoir l'avenir. Si vous disposez de tout petits UTXO dans votre portefeuille, ils peuvent être perdus si le réseau Bitcoin entre dans une longue période avec des frais très élevés. En effet, si la dépense d'un UTXO de 10 000 sats vous demande de payer au minimum 15 000 sats de frais de minage, alors le coût engendré par la dépense dépasse la valeur de l'UTXO en lui-même. Vous n'avez donc plus aucun intérêt à dépenser ces petits UTXO et ils demeureront perdus tant que les frais ne redescendent pas. En consolidant régulièrement vos petits UTXO, vous limitez ce risque lié aux hausses de frais. Quels sont les risques liés à la consolidation d'UTXO ? Le principal inconvénient de la consolidation d'UTXO est qu'elle permet d'appliquer une heuristique d'analyse de chaîne que l'on appelle CIOH. Comme je vous l'expliquais dans mon article sur le modèle de confidentialité de Bitcoin, vos transactions ne sont pas privées. Elles sont diffusées publiquement à tous les nœuds du réseau dans le monde entier. À partir de ces données publiques, il est possible de faire de l'analyse de chaîne afin de tracer les flux de vos bitcoins et d'observer votre vie privée. Le travail des sociétés d'analyse se découpe principalement en deux étapes. Dans un premier temps, elles vont tenter de repérer des caractéristiques sur des transactions. Puis, à partir de ces informations, elles vont déduire des hypothèses plus ou moins vraisemblables sur les flux de bitcoin. Parmi ces caractéristiques, les deux principales menaces pour la vie privée de l'utilisateur sont la réutilisation d'une adresse de réception et le fameux CIOH, ce qui veut dire en anglais Common Input Ownership Heuristic. En français, on peut traduire le CIOH par heuristique de propriété commune des entrées. Cela veut tout simplement dire que pour une transaction qui dispose de plusieurs entrées, on peut interpréter qu'elles proviennent vraisemblablement toutes d'une même personne. Leur propriété est donc commune. La conséquence du CIOH est que la consolidation d'UTXO peut parfois révéler des informations sur vous. Prenons un exemple pour bien comprendre ce concept. Imaginons que votre amie Alice vous envoie 50 000 sats pour votre anniversaire. En parallèle, vous disposez de 6 outils EXO de 100 000 sats chacun que vous avez achetés sur l'application Bitstack. Si vous décidez de consolider tous ces outils EXO ensemble, alors Alice sera en capacité de savoir que vous possédez au minimum 650 000 sats simplement en observant la blockchain. Pour éviter ce risque, il convient de conserver une bonne gestion de ces outils EXO au sein de son portefeuille. Vous pouvez également veiller à ne pas fusionner les outils EXO provenant de sources différentes afin de limiter l'impact de votre consolidation sur votre vie privée. Conclusion. La consolidation de pièces sur Bitcoin consiste à profiter des périodes de frais bas pour agréger plusieurs petits outils EXO en un seul plus gros. De cette manière, on peut anticiper les périodes de hausse de frais et au final, faire des économies sur nos frais de minage. Si vous conservez vos bitcoins en self-custody, je vous conseille vivement de mettre en place une stratégie de consolidation. Si l'adoption de bitcoin explose à la hausse, la consolidation vous aura permis d'éviter bien des problèmes. Attention toutefois, la consolidation permet d'appliquer l'heuristique du CIOH en analyse de chaîne. Si vous consolidez des outils EXO sans veiller à ne pas fusionner les sources, alors cette pratique peut avoir une incidence sur votre vie privée. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note. Pour retrouver l'intégralité de nos articles sur Bitcoin, rendez-vous sur bitstack-app.com. Vous pouvez également suivre Bitstack sur tous les réseaux sociaux afin d'être sûr de ne pas passer à côté des prochains épisodes. Merci, à bientôt.